Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à l'origine après la libération d'Albert Speer de la prison de Spandau, Au cœur du Troisième Reich est un mémoire politique et historique d'un acteur central du régime nazi. Architecte proche d'Adolf Hitler, puis ministre de l'armement et des munitions à partir de 1942, Speer y retrace son ascension, son accès au cercle dirigeant et l'administration de l'économie de guerre allemande. Le livre ne doit toutefois pas être lu comme un témoignage transparent, il constitue aussi une mise en scène rétrospective de son auteur, soucieux de circonscrire sa responsabilité après sa condamnation à Nuremberg. Sa valeur tient donc autant aux informations qu'il fournit sur les pratiques du pouvoir qu'à ses silences, ses déplacements de responsabilité et ses justifications. L'ouvrage éclaire la séduction exercée par Hitler, la concurrence entre institutions nazies, la mobilisation industrielle et le recours massif au travail forcé. Il pose en définitive la question de la participation d'élites compétentes à un système criminel. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'ascension d'un architecte au sein du pouvoir hitlérien. Speer présente son entrée au parti nazi en 1931 et son passage rapide du métier d'architecte à des fonctions politiques de premier plan. Cette trajectoire est essentielle au livre, elle montre comment une compétence professionnelle, en l'occurrence l'architecture et l'organisation de grands projets, peut devenir une ressource pour un pouvoir dictatorial. Chargé de scénographie monumentale, de projets urbains et de bâtiments destinés à magnifier le régime, Speer se rapproche personnellement d'Hitler. Les échanges qu'il rapporte permettent de comprendre l'importance accordée par le Führer à l'esthétique, aux ruines anticipées, aux dimensions gigantesques et à la représentation matérielle de la puissance. Mais ces pages ne relèvent pas seulement de l'histoire de l'art ou de l'urbanisme. Elles mettent en évidence la fonction politique de l'architecture nazie, fabriquer des symboles de permanence, organiser les foules et rendre sensible une vision impériale du pouvoir. Le récit de Speer tend souvent à distinguer l'architecte fasciné du responsable politique impliqué. Cette séparation doit être interrogée. Les projets monumentaux ne sont pas périphériques à l'idéologie, ils contribuent à sa traduction concrète et à la légitimation visuelle d'un État fondé sur la domination, l'exclusion et la guerre. Deuxièmement, Hitler vu de près charisme personnel et arbitraire décisionnel. L'un des apports les plus connus d'Au cœur du Troisième Reich est son évocation du fonctionnement quotidien du sommet nazi et de la relation entre Speer et Hitler. Le mémoire décrit un chef dont l'autorité personnelle prime sur des procédures stables, capable de s'intéresser avec intensité à certains dossiers, puis de différer ou de contredire les décisions administratives. Speer insiste sur le pouvoir de séduction, la confiance apparente et les habitudes de travail du dictateur. Ses observations aident à saisir que le régime ne se réduisait ni à une bureaucratie impersonnelle, ni aux seules impulsions d'un homme, il associait une administration abondante à une concentration extrême du pouvoir autour du Führer. Cette configuration encourageait rivalité, initiative concurrente et recherche permanente de faveurs personnelles. Le lecteur doit cependant garder une distance critique face au portrait proposé. Speer peut accentuer l'emprise hypnotique d'Hitler afin d'expliquer sa propre adhésion et de présenter son éloignement final comme un réveil progressif. Malgré cette limite, son témoignage rend intelligible un mécanisme majeur des dictatures, l'arbitraire du chef, ne paralyse pas nécessairement l'appareil d'État. Il peut au contraire pousser les subordonnés à anticiper ses attentes et à radicaliser leurs actions sans contrôle effectif. Troisièmement, le ministère de l'armement est le mythe d'une efficacité purement technique. Nommé ministre de l'armement en 1942. Speer raconte la réorganisation de la production militaire dans un contexte de guerre totale, de pénurie et de rivalité institutionnelle. Il met en avant la centralisation, la standardisation, l'exploitation plus intensive des capacités industrielles et la recherche de gains de productivité. Cette partie explique pourquoi son image de organisateur a longtemps occupé une place importante dans les représentations de la guerre allemande. Elle montre aussi que les décisions économiques étaient indissociables des objectifs de conquête et de destruction du régime. La rationalité administrative décrite par Speer n'est donc pas une rationalité neutre, elle sert à prolonger une guerre d'agression devenue toujours plus meurtrière. Le livre invite à examiner avec prudence le récit d'un redressement industriel attribué à un seul ministre. Les recherches historiques ont nuancé cette auto-présentation en soulignant la continuité d'efforts antérieurs, le rôle d'autres institutions et les limites de son contrôle réel. Son intérêt demeure considérable précisément à ce titre. Il permet d'étudier comment un responsable peut transformer des méthodes de gestion, tableau de production, coordination, objectifs chiffrés, en langage d'auto-justification, tout en minimisant les finalités politiques et humaines auxquelles ces instruments ont été soumis. Quatrièmement, travail forcé exploitation concentrationnaire et responsabilité de Speer, le cœur moral et historique du livre réside aussi dans ce qu'il révèle et dans ce qu'il atténue, sur la main-d'œuvre utilisée par l'industrie de guerre. Sous l'autorité du ministère de Speer, la production allemande dépend largement de travailleurs étrangers contraints, de prisonniers de guerre et de détenus des camps de concentration. Leur exploitation n'est pas un élément secondaire de l'effort industriel, elle constitue une réponse structurelle aux besoins de main-d'œuvre créés par la mobilisation militaire et les politiques raciales du Reich. Speer cherche dans ses mémoires à limiter l'étendue de sa connaissance et de son implication, notamment concernant l'extermination des Juifs. Cette défense a contribué à façonner l'image d'un technocrate moins compromis que d'autres dignitaires. Or, les travaux historiques ultérieurs ont établi plus nettement sa participation au système de travail forcé et ont mis en cause plusieurs de ses dénégations. Lire ces passages avec les connaissances disponibles ne consiste pas à rejeter tout le témoignage, cela consiste à en comprendre la stratégie. Le livre devient alors une source sur la manière dont un haut responsable reformule sa responsabilité. Après la catastrophe, il admet certaines fautes, mais cherche à fixer une frontière entre l'administration de la guerre, qu'il décrit en détail, et les crimes les plus radicalement condamnés. En dernier lieu, les derniers mois du Reich, désagrégation du pouvoir et mémoire défensive, dans son récit de 1944 et 1945, Speer décrit l'effondrement militaire, les conflits au sein de la direction nazie et son opposition tardive à la politique de destruction envisagée par Hitler sur le territoire allemand. Ces chapitres donnent à voir un régime qui, face à la défaite, ne devient pas simplement désorganisé, il conserve une capacité de nuisance considérable et radicalise certaines décisions. Ils éclairent également la décomposition d'une loyauté personnelle autrefois centrale dans la trajectoire de Speer. Celui-ci se présente comme ayant progressivement compris le caractère destructeur du pouvoir hitlérien et comme ayant pris ses distances dans les derniers mois. Cette affirmation est importante, mais elle ne saurait effacer les années durant lesquelles ses compétences ont servi la guerre et l'exploitation. La temporalité même du récit est révélatrice. L'indépendance revendiquée apparaît lorsque la victoire est devenue impossible et que les conflits internes s'intensifient. Cette partie doit donc être lue à deux niveaux. Elle offre des informations précieuses sur la crise terminale du régime, ses ordres contradictoires et la perte de cohésion de ses dirigeants, simultanément. Elle construit l'image d'un Speer différent des principaux criminels nazis, image qui fut décisive dans sa réception publique mais que l'historiographie a fortement réévaluée. En conclusion, Au cœur du Troisième Reich s'adresse aux lecteurs d'histoire du nazisme, de la Seconde Guerre mondiale et des institutions autoritaires. Mais il exige une lecture critique. Il sera particulièrement utile à ceux qui veulent comprendre comment se combine proximité avec le chef, compétition bureaucratique, expertise technique et violence d'État. Les étudiants et lecteurs non spécialistes y trouveront un accès direct, vivant et souvent précis à l'univers des dirigeants nazis. Ils gagneront toutefois à le compléter par des travaux historiques récents sur Speer, l'économie de guerre et le travail forcé. Le bénéfice intellectuel principal du livre est de montrer que les crimes d'un régime ne sont pas accomplis par la seule brutalité idéologique, ils mobilisent aussi des administrateurs, des ingénieurs, des producteurs et des instruments ordinaires de gestion. Sa difficulté est exactement la même que sa force. Contrairement à une étude historique écrite de l'extérieur, ce mémoire donne accès au regard d'un participant placé au sommet de l'État nazi. Mais contrairement à un document administratif, il est façonné par la nécessité, pour Speer, de rendre compte de son passé après Nuremberg. Cette tension entre information et auto-justification le distingue des autres témoignages. Il ne faut donc ni l'adopter comme confession définitive, ni l'écarter comme simple plaidoyer, lu en confrontation avec l'historiographie. Il devient un document majeur sur le fonctionnement du pouvoir nazi et sur les mécanismes par lesquels une élite impliquée tente ensuite de définir les limites de sa culpabilité. Si vous souhaitez soutenir Albert Speer, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.